À quoi doit s'attendre un disciple de Jésus ? Doit-il se préparer à être un loser qui va être persécuté ? Ou doit-il rechercher la gloire ? Doit-il s'attendre à un certain succès dans son annonce de l'Évangile ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Et finalement, c'est le texte qui nous pose cette question, c'est le passage de Jean 12, donc Évangile de Jean au chapitre 12. Nous sommes toujours dans le cadre de cette série sur les rencontres de Jésus dans l'Évangile de Jean. Ici, nous avons un passage très intéressant où nous pouvons nous mettre dans la peau des disciples de Jésus. Quand on était disciple de Jésus, l'ascenseur émotionnel fonctionnait très bien, fonctionnait à plein régime. Parce que être avec Jésus, c'est connaître des situations vraiment pas communes. Avant le passage que nous allons lire, au chapitre 10, donc dans Jean 10, Jésus est à Jérusalem pour la fête des dédicaces, et les disciples voient que les Juifs veulent le lapider, parce qu'il a dit que lui et le Père étaient un. Donc si vous êtes disciple, vous flippez un tout petit peu quand vous voyez que les Juifs veulent lapider votre maître. Dans Jean 11, donc l'épisode de la résurrection de Lazare, juste avant que Jésus aille à Béthanie, en direction finalement de Jérusalem, quand Thomas apprend que voilà, on retourne finalement dans la gueule du loup, voici ce qu'il dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Thomas n'était pas très optimiste sur le sort de Jésus et des disciples pour retourner vers Jérusalem. Et juste après la résurrection de Lazare, toujours au chapitre 11, il y a à la fois une notoriété qui grandit pour Jésus, puisqu'il a ressuscité un mort, mais il y a aussi une haine des responsables religieux qui, dans la foulée, décide de tuer Jésus et Lazare. Nous sommes donc dans un moment un petit peu spécial de la vie de Jésus et donc de la vie des disciples, où tout ce que fait Jésus provoque vraiment des réactions très exacerbées dans les deux sens. Les disciples sont à la fois les disciples de quelqu'un qui a l'air d'être un peu un loser parce qu'il n'a pas le succès escompté pour finalement le Messie, mais en même temps, on voit quand même qu'il connaît des bons succès ici et là, parce que bien sûr, il fait quand même des choses extraordinaires. Donc, revenons à ce texte que nous allons lire dans Jean 12. Jean 12, 12, donc, on nous dit que le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ! Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon cette parole de l'Écriture, « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui faire cette demande, « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Et nous allons nous arrêter là pour un petit moment avant de continuer sur Jean 12. Ce que nous voyons avec cette première partie de récit, c'est que ce jour est le jour à ne pas rater. C'est bien sûr le jour à ne pas rater parce que c'est la Pâque, c'est-à-dire c'est le moment de l'anniversaire de la libération d'Égypte, des Hébreux en Égypte sous la conduite de Moïse. Donc il y avait tout un tas de sacrifices, un tas d'actions de grâce, c'était un jour de fête. Le lieu, c'est bien sûr Jérusalem, la ville sainte avec son temple, et l'occasion à laquelle nous assistons, c'est l'arrivée du Messie, le libérateur promis. Voilà ce qui se passe quand Jésus entre. Tout le monde considère Jésus comme le Messie, le libérateur promis, le jour de l'anniversaire de la libération d'Israël. C'est vraiment un jour très particulier. Et ça y est, on peut se dire que les Juifs ont enfin compris qui est Jésus. Ils l'appellent le roi d'Israël, ils le traitent comme tel en l'acclamant, en mettant des rameaux sur son passage, tel un tapis rouge. Si vous êtes disciple de Jésus, à ce moment-là, vous vous dites que c'est enfin fini la galère. Le peuple de Dieu dans son entier, réuni pour la Pâque, va enfin reconnaître son souverain. En fait, c'est à se demander si Jésus n'aurait pas été plus inspiré de commencer son ministère en ressuscitant Lazare et en laissant les témoins du miracle faire leur boulot. Parce qu'on voit bien dans notre texte que c'est ce miracle-là qui est déterminant pour cette entrée triomphale. On assiste même à une déprime des pharisiens au verset 19. Même ces imbéciles de pharisiens, même ces têtus n'ont plus rien à dire, puisqu'ils finissent par dire, vous voyez, on n'y peut rien, tout le monde le suit. Ça fait 3 ans qu'ils n'arrêtent pas de combattre Jésus, qu'ils sont violents, qu'ils sont malhonnêtes. Ces usurpateurs de pharisiens qui se servaient de la religion pour se faire voir et pour oppresser les autres vont enfin aller se faire voir. Ils ont le bec cloué pour une fois. Ils ont enfin compris qu'il n'y a plus rien à faire. Et même, on pourrait se demander s'ils ne pourraient pas commencer à croire. Encore un autre événement qui peut vraiment donner un grand optimisme aux disciples de Jésus, c'est que les prosélytes ont enfin envie d'en savoir plus. Les affaires marchent tellement bien en ce jour que même ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont non-juifs, ceux qui sont craignant Dieu, même ceux qui sont d'origine grecque donc, et qui ne font pas partie du peuple de Dieu, veulent en savoir plus sur Jésus. C'était donc vrai. Toutes les nations du monde vont enfin trouver la vraie foi grâce à Israël, grâce à la puissance du Messie promis. Israël, la nation qui n'en est plus une parce qu'elle a été annexée par les Romains, va enfin redevenir le centre du monde. Voilà l'espoir qui naît avec cette entrée triomphale de Jésus. Imaginez l'excitation des 12. Même s'ils ne comprennent pas tout aux événements, imaginez les perspectives qu'ils peuvent entrevoir ce jour des rameaux. Enfin, après 3 ans d'incompréhension, de vaches maigres, de rejet, la reconnaissance est enfin là. Enfin, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire. Enfin, Jésus est vainqueur. Enfin, la justice de Dieu va pouvoir être établie. Enfin, les Romains vont déguerpir. Jésus, tel Zorro, va les chasser. Il va régner. Et c'est peut-être le moment de se placer pour avoir les meilleures places autour du futur trône de Jésus. En fait, ça valait le coup d'attendre. Jésus a enfin percé dans sa carrière de Messie. La vie sera belle dorénavant. Mais ce moment de liesse ne dure pas longtemps. Et il nous faut lire les versets qui suivent ce récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et donc c'est dans Jean 12, à partir du verset 23. Quand Philippe et André amènent des croyants d'origine non juive à Jésus, voici ce qu'il leur répond au verset 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là, et qui avaient entendu le son de cette voix, crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus du ciel ? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous, pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Alors on le remarque tout de suite, comme à son habitude, Jésus joue les rabat-joie et met un violent coup d'arrêt aux rêves éventuels de la foule et de ses disciples. Oui, il parle de gloire, mais il parle surtout de mourir. Au verset 27, il est même troublé. « Oh non, Jésus, tu vas pas nous faire le coup de la déprime, pas aujourd'hui. Eh, surfe sur la vague du succès !» Non, Jésus n'a pas l'air décidé. Et il se remet à enseigner quelque chose de pas très tendance, de pas très vendeur. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive, là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Jésus a accepté le jeu de l'entrée triomphale sans broncher, mais il refuse la suite logique. Il refuse la domination. Il refuse la soie, le champagne, le foie gras, le confort. Il refuse le costume de Messie qu'on lui propose. Il a une autre idée de son rôle. En vérité, Jésus propose une Pâque avec beaucoup moins de paillettes, mais une vraie Pâque. Elle est à la fois plus sombre et plus éblouissante. Plus sombre parce que ce n'est pas un agneau comme les autres qui va mourir à la place des Juifs. C'est Jésus lui-même. Le Messie n'est pas venu monter sur un grand cheval blanc majestueux. Il n'est pas venu pour se servir de sa belle épée. Il est venu pour mourir. Le vrai Messie n'est pas beau. Le vrai Messie n'est pas impressionnant. Et en plus, il vient pour souffrir. On est loin du temps de Moïse où les chants de joie et les cris d'allégresse concluaient la sortie d'Égypte et la victoire d'un petit peuple de bédouins du désert sur la plus grande armée du monde. Ici, nous sommes dans le sombre. Mais cette Pâque-là est sombre dans un premier temps, parce que dans un second temps, elle est plus éblouissante que la première. Ici, ce n'est pas le pharaon et son armée qui va perdre. C'est le dominateur de ce monde, comme on le voit au verset 31. C'est Satan lui-même qui va être terrassé. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment plus éblouissant, plus ébouriffant que la sortie d'Égypte. Notez aussi qu'on ne parle plus de fuir, de sortir, comme en Égypte. On parle d'expulser l'intrus. Ce n'est pas une petite libération qui s'annonce. C'est un plan de sauvetage de l'humanité tout entière. Mais le côté le plus sombre de ce passage, c'est à mon avis le contraste entre ce à quoi on pouvait s'attendre lors de l'entrée triomphale de Jésus et la réalité du verset 37. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Par les questions qu'elle pose, on comprend que la foule n'a pas du tout compris l'identité de Jésus. Malgré ce qu'il dit, la foule reste enfermée dans son idée du Messie. Et Jésus n'a pas du tout l'air d'être d'humeur à argumenter, à enseigner. Il se contente juste de les encourager à marcher dans la lumière pendant qu'il est encore temps. En fait, l'argument massue, c'était le fait que Dieu a parlé. Mais, même ça, ça n'a pas suffi à les réveiller. Là encore, on peut faire un parallèle avec la fois où, au pied du Sinaï, Dieu s'est adressé à Moïse après la libération d'Égypte. Et le peuple avait dit à Moïse d'être médiateur, par peur de mourir. Il ne voulait pas entendre la voix de Dieu. À ce moment-là, le peuple avait compris ce qui se passait. Ils avaient compris que Dieu était tellement trois fois saint, était tellement impressionnant, qu'il ne pouvait pas l'approcher, qu'il fallait un intercesseur. Sauf que ici, quand le Père parle à Jésus, il croit toujours que c'est un coup de tonnerre impressionnant, mais c'est l'incrédulité qui prévaut. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui s'adresse à Jésus, et finalement qui s'adresse à Jésus pour que eux comprennent. Dans la seconde partie de notre passage, il est question d'honneur et de gloire. La fin du verset 27 et le verset 28. « Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Père, manifeste ta gloire. » Alors une voix se fit entendre venant du ciel. « J'ai déjà manifesté ma gloire. » Et je la manifesterai à nouveau. Il est question d'honneur et de gloire, sauf que, comme d'habitude, avec les valeurs du royaume de Dieu, on est à l'opposé de la définition commune. Ici, l'honneur vient après le service envers Jésus. Et le but de Jésus est bien la gloire, mais la gloire du Père, pas la sienne. Et comment rendra-t-il gloire au Père ? En lui obéissant, en se comportant comme le serviteur des hommes, en mourant sur la croix. On est loin du succès, on est loin de la célébrité clinquante, on est loin des paillettes. On est au contraire dans la discrétion, dans le laborieux. Dans le royaume de Dieu, la gloire et l'honneur sont obtenus après le renoncement, l'effacement, l'humilité, après avoir servi Dieu et son prochain. Quand Jésus déclare au verset 27 « À présent je suis troublé, que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. » Eh bien, quand il dit ça, on peut se demander s'il n'est pas un peu remué par cette entrée triomphale. Et je pense qu'on peut se demander si cet événement du jour des rameaux, cette entrée triomphale, on peut se demander si cet événement n'a pas été une tentation supplémentaire pour Jésus. Un peu, finalement, la deuxième manche de la tentation dans le désert, avec une promesse de la gloire humaine, qui ressemble beaucoup, finalement, à ce que Satan lui avait proposé dans le désert, dans Luc 4, ou Matthieu 4, puisque ce sont les deux textes parallèles. Et ce qui est vicieux, c'est que Jésus mérite cette gloire. N'est-ce pas vrai qu'il est le Messie attendu? N'est-ce pas vrai qu'il est le véritable roi d'Israël? Mais bien sûr que oui, il l'est. Mais justement, le diable se sert souvent de choses vraies pour nous tenter. Choses vraies, mais déformées. Il s'agit donc de bien interpréter la réalité et surtout de garder à l'esprit la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Jésus aurait préféré beaucoup de jours des rameaux, mais ce n'était pas sa mission. Jésus n'était pas masochiste. La perspective de souffrir plusieurs heures sur une croix et de mourir par étouffement ne le remplissait pas de joie. Il aurait préféré connaître plein d'entrées triomphales à Jérusalem. Jésus était bien un homme. Sauf que sa mission de service était prioritaire. Il a donc préféré les désagréments de l'obéissance, et c'est ce qui nous a sauvé la vie. Alors quand nous voyons le comportement de Jésus, nous pouvons nous poser trois questions. Première question, quel doit être notre rapport avec le succès? Qu'est-ce que le vrai succès? Ça, c'est une question classique. Selon quelles valeurs voulons-nous vivre? Que recherchons-nous dans la vie? Recherchons-nous la reconnaissance? Et c'est naturel de rechercher la reconnaissance. On en a tous besoin. Mais finalement, à quel prix? Jusqu'à quel point? Le besoin de reconnaissance peut devenir une sorte de narcissisme qui pousse à écraser les autres pour prendre encore plus de place. Qu'est-ce que le succès pour l'Église? Est-ce que ça veut dire être à la mode? Est-ce que ça veut dire être nombreux, être beau, être riche, en excellente santé? Être aimé, accepté, ne plus être une cause de scandale? À quel prix la reconnaissance? Souvent, le besoin de reconnaissance passe par une déformation du message révolutionnaire de l'Évangile. Et c'est ça, le véritable danger. Au niveau personnel, Jésus nous propose le service humble, qui ne fait pas de bruit. Au niveau ecclésial, au niveau de l'Église, Jésus nous propose la persécution à cause d'un Évangile scandaleux. Si vous avez signé, si vous vous êtes engagé pour le Seigneur Jésus, c'est pour ce genre de succès que vous avez signé, pour l'humilité et pour la persécution. Vous êtes prévenu. La deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est comment sortir de notre zone de confort? Jésus a accompli parfaitement la volonté de Dieu, et ceci pour la gloire de Dieu. Comment faire pour l'imiter? La zone de confort est ce que nous recherchons tous plus ou moins. Cela équivaut à peu près à mener une vie où l'on en fait assez pour avoir la conscience tranquille, sans trop se faire violence. Considérons-nous que notre boulot de chrétien consiste à en faire juste assez, ou cherchons-nous à aller toujours plus loin? Nous ménageons-nous au détriment de l'œuvre de Dieu, Soyez sûr que Dieu veut nous faire progresser. Et ça implique donc du changement dans pas mal de domaines de notre personnalité, dans pas mal de domaines de notre environnement. Ça implique des changements de notre vie. C'est désagréable, il faut le reconnaître, mais c'est pour notre bien. Essayons-nous d'échapper à ce genre de changement. Essayons-nous d'échapper à l'action de Dieu dans notre vie. Et j'ai envie de te dire, sûrement. Mais combattons. Combattons le fainéant, le mollasson, le peureux qui sommeille en nous. Ce n'est pas nous, le centre de l'univers. C'est Dieu. Et nous sommes à son service. Troisième question. Rendre gloire à Dieu, est-ce que c'est le but de notre vie? C'est un peu la question qui résume tout. Voulons-nous travailler pour la gloire de Dieu? Pas pour notre ego, pas pour notre bien-être, pas pour être bon dans le regard des autres, mais seulement et uniquement pour que Dieu nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». En référence à la parabole des talents, où le maître dit aux serviteurs fidèles qui ont fait fructifier son argent, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Faisons-nous fructifier ce que le maître nous a confié. » Si Dieu nous a rachetés en sacrifiant son propre Fils, s'il nous a régénérés par son Saint-Esprit, c'est précisément pour sa gloire, pour se constituer un peuple qui le loue, qui lui obéisse, qui rende fidèlement témoignage de son action sur terre, un peuple d'adorateurs, tout simplement. Alors, nous inscrivons-nous dans ce projet? Avons-nous oublié que nous sommes là pour ça? C'est la question que nous devons nous poser. Dans Jean 13, Jésus va aller jusqu'au bout. Lui, le Seigneur, le Fils de Dieu, il va laver les pieds de ses disciples. S'il fait cela, ce n'est pas pour lui-même, mais pour donner l'exemple aux 12. L'Église est le lieu d'exercice du service, de l'abnégation. C'est le lieu où l'on se sacrifie pour les autres. Peut-être que la difficulté, c'est finalement de trouver la place, le rôle que Dieu veut que nous ayons dans son Église. Peut-être que nous voudrions rendre gloire à Dieu, mais que nous ne savons pas comment faire. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller voir les membres du Conseil des Anciens de votre Église. Mais je voudrais conclure en priant pour que le Seigneur nous conduise tous à être de meilleurs serviteurs. Qu'il aide nos communautés à aller dans la bonne direction, à accomplir le plan qu'il a établi pour nous, qu'il nous évite de tomber dans tous les pièges que pourrait nous tendre le diable. Il est tellement facile de tomber, de faire fausse route, de se laisser hypnotiser par nos mauvais penchants. Alors, prions, prions pour que nous fassions la volonté du Père pour sa gloire. Amen.